Chapitre 8. 2 octobre 1998, 9h35. Marc dévora le reste de son croissant sans même lever les yeux vers cette pendule qui n'avançait pas, vers la belle étudiante aux yeux d'azur qui lui faisait face, ou vers Mariam, cette serveuse qui jouait avec ses nerfs. Le Lénine s'agitait autour de lui, l'esplanade de l'université également à travers la vitre. Même si en aucun cas les révélations de Grand-Duc ne le feraient douter, il lui fallait lire encore, emmagasiner toutes ces informations qu'il découvrait pour la plupart, puisque Lily le voulait. Journal de Crédule Grand-Duc. Le juge Le Drian convoqua une quinzaine de jours plus tard, le 11 janvier 1980, une nouvelle réunion. Mêmes enquêteurs, même lieu, même bureau, avenue de Suffrenne, mais le matin cette fois-ci. La tour Eiffel grelottait dans le brouillard, on distinguait à peine ses pieds humides dans les flaques qu'un fin crachin agrandissait lentement. Des files de touristes s'étiraient sous un chemin de parapluie. Il n'y avait aucun endroit prévu, pas même un toit de verre pour patienter devant le monument le plus visité au monde. Un comble, parmi tant d'autres. Le juge Le Drian était de plus en plus ennuyé. On lui avait fait comprendre, par la voie hiérarchique, toute la sympathie que des personnes fort influentes portaient au Carville. Le juge n'était pas stupide, il avait compris le message. Sauf qu'il faisait ce qu'il pouvait avec les éléments qu'il avait entre les mains. Il n'allait quand même pas fabriquer de fausses preuves. Le docteur Morange terminait son exposé sur la question du groupe sanguin. Il avait fait passer des photocopies d'analyses médicales complexes. « Donc, si je résume, fit le docteur, notre petite miraculée possède le groupe sanguin le plus commun, A+, comme plus de 40% de la population française. Les archives des cliniques de Dieppe et d'Istanbul nous ont appris qu'Émilie Vitral et Lise Rose de Carville, sans aucun doute possible, possédaient toutes les deux le groupe sanguin le plus commun, A+, vous l'avez compris. » « Forcément, » pensa le juge Le Drian. « Il n'y a pas moyen d'en faire dire davantage à ces analyses médicales, » pesta-t-il. Morange expliqua doctement. « Il faut comprendre. Les prises de sang permettent seulement d'éliminer des paternités ou des fratries, pas de les affirmer. On pourrait seulement affirmer qu'il existe un lien familial si l'on était en présence d'un rhésus peu courant, ou bien en cas de maladie génétique rare. Mais nous ne sommes pas du tout dans ce cas de figure. La science ne nous apprendra rien sur la famille de cet enfant. En parlant de science, je vous vois venir, vous vous croyez malin. Et la génétique, l'ADN, le test de paternité, tout le tintouin, hein? Mais imaginez le contexte. Nous étions en 1980. À l'époque, les tests ADN, c'était encore de la science-fiction. La première affaire judiciaire au monde à avoir été élucidée à partir d'un test ADN date de 1987. Vous situez ? Cela dit, je vous rassure, nous y reviendrons évidemment à cette question du test ADN. C'est une question qui devait forcément se poser un jour. Mais la petite miraculée avait bien grandi alors, et les données du problème avaient sacrément changé. La science n'explique pas tout, loin de là, vous verrez. En attendant, en 1980, les experts de l'avenue de Suffrenne bricolaient comme ils pouvaient. Le docteur Morange fit glisser sur la table un ensemble de clichés. Ce sont les modélisations établies par le labo de Meudon, des techniques de vieillissement artificiel du visage de la petite miraculée, réalisées par informatique, afin de voir à qui le bébé ressemblera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Le juge jeta un coup d'œil aux photographies et força un agacement. « Si vous croyez que je vais prendre ma décision à partir d'un tel délire... » Sur ce coup-là, il avait raison, en partie au moins. Objectivement, la miraculée, vieillie par modélisation, ressemblait davantage à une vitrale qu'à une Carville, mais sans que ce soit flagrant, et les avocats des Carville se régalèrent eux aussi à tourner la chose en dérision. 18 ans plus tard, ayant vu grandir en direct, année après année, le bébé miraculé, je peux d'ailleurs vous affirmer que ces techniques de vieillissement artificiel relevaient du plus pur foutage de gueule. Reste la couleur des yeux, insista le médecin. Le seul signe distinctif réel de ce bébé miraculé. Ils sont étonnamment bleus pour son âge. La couleur peut encore changer, foncer, mais on tient tout de même là une particularité génétique. Le commissaire Vatelier prit le relais. La petite Émilie Vitral avait les yeux clairs, virant déjà sur le bleu. Tous les témoins l'ayant approché, les grands-parents, quelques amis, les infirmières de la maternité l'ont confirmé. Des yeux clairs comme ceux de ses deux parents, de ses grands-parents, comme pratiquement l'intégralité de la famille Vitral. Par contre, chez les Carville, parents et grands-parents sont bruns, leurs yeux sombres et marrons. C'est sensiblement la même chose côté Bernier, j'ai vérifié. Le juge Le Drian semblait à bout de nerfs. Ce n'était pas bon, pas bon du tout pour les Carville. Ce flic l'agaçait. À l'extérieur, le crachin tournait à l'averse. Les visiteurs stoïques continuaient de patienter au pied de la tour Eiffel, dissimulés sous un chapiteau de parapluie, version moderne de la tactique romaine de la tortue. Le juge se leva pour appuyer sur un interrupteur et ajouter un peu de clarté à la pièce. Son écharpe tombait à droite. Il ne la réajusta pas. « Mouais, tempéra-t-il. Juste une présomption de plus, toujours pas une preuve. Tout le monde sait que deux parents aux yeux bruns ou noirs peuvent avoir un enfant possédant toute la gamme possible de couleurs des yeux. »
« C'est exact, » concéda le docteur Morange.
« Ensuite, c'est simplement une question de probabilité. » « La probabilité. En toute bonne foi, elle ne penchait pas vraiment en faveur des Carville. Je me souviens que, quelques semaines plus tard, le magazine Science et Vie avait pris l'exemple de la miraculée du Mont Terrible pour expliquer en quoi la génétique était incapable de prédire avec systématisme les caractéristiques physiques d'un individu à partir de son ascendance familiale. J'ai toujours soupçonné, depuis, les 11 de Carville d'avoir télécommandé, directement ou indirectement, un tel article qui tombait un peu trop bien. » Le juge interrogea ensuite Saint-Simon, l'enquêteur turc, dans le haut-parleur. « Et les habits de la miraculée, nom de Dieu ? C'est si difficile de tirer des conclusions qui tiennent debout à partir des habits qu'elle portait le jour du crash ? » Saint-Simon riposta, calmement.
« Messieurs, je vous rappelle la nature des vêtements trouvés sur le bébé miraculé. Un body de coton, une robe blanche à fleurs orange, un pull de laine écrue en jacquard. On peut affirmer avec certitude que les vêtements ont été achetés à Istanbul, dans le Grand Bazar, le plus grand marché couvert du monde. »
Le juge Le Drian ne laissa pas passer l'occasion.
Les Vitral étaient en vacances pour seulement 15 jours en Turquie. Ils n'ont séjourné que 2 jours à Istanbul. La petite Émilie Vitral devait logiquement porter des vêtements français emportés dans les bagages. Il est très peu probable que ses parents aient eu le réflexe de la vêtir quelques heures avant de repartir en France avec des habits achetés à Istanbul. Si le bébé miraculé portait un body, une robe, un pull turc, il me semble évident qu'il doit s'agir de Lise Rose de Carville. La petite est née à Istanbul. »
Saint-Simon se chargea de retourner l'argument dans la seconde.
« Sauf, monsieur le juge, si je peux me permettre, que les habits turcs portés par le nouveau-né étaient des vêtements bon marché. J'ai vérifié. Ils n'ont rien à voir avec le reste de la garde-robe de Lise Rose rangée dans les placards de leur villa de Seyhan. Je vais vous en envoyer un descriptif précis. Lise Rose n'était habillée qu'avec des habits de marque achetés dans le quartier occidental d'Istanbul, à Galatasaray, pas au Grand Bazar. »
Avant qu'il ne se lance dans l'analyse des différences sociologiques entre les quartiers d'Istanbul, Le Drian coupa sèchement Saint-Simon.
« Ok, ok, je regarderai ça. Vatelier, vous pouvez nous faire le point sur les expertises en balistique ?»
Vatelier se frotta la barbe et regarda le juge d'un air méfiant. Puis, les experts ont essayé de reconstituer comment et à quel moment exact le bébé avait été éjecté de l'avion. Nous savons à quelle place s'était assis chaque passager. Les Carville étaient installés au 10e rang, côté hublot, légèrement à l'arrière de la carlingue.
Les vitrales occupaient le centre de l'Airbus, à peu près au niveau des ailes. Les deux bébés se trouvaient donc environ à équidistance de la porte de l'avion, qui a cédé sous l'impact du crash, puis de l'explosion, et par laquelle le nourrisson se trouva éjecté. Sur ce dernier point, tous les avis convergent. Je vous ai sorti le dossier. Les experts ont pu reconstituer avec précision l'impact, la torsion de la porte, ils sont d'accord. Seul un être vivant de moins de 10 kilos pouvait sortir vivant d'un tel piège. « Ok, ok, commissaire !» coupa le juge, qui arborait ce jour-là une écharpe jaune moutarde qui s'accordait moyennement avec sa veste vert bouteille. « Mais il y a eu la théorie Le Talendier depuis. Si je ne me trompe pas, le professeur de physique Serge Le Talendier a démontré qu'il était peu vraisemblable que l'éjection se soit produite selon un mouvement latéral, et qu'en d'autres termes, il est moins probable que ce soit Émilie Vitral qui ait été éjectée, puisqu'elle était assise au centre de la carlingue. Votre opinion, commissaire ?
Oh ben, pour être tout à fait franc, les calculs de Le Talendier sont tellement compliqués qu'aucun flic de France, même issu de la police scientifique, n'oserait le contredire. Mais je me dois quand même de préciser que Serge Le Talendier est un camarade de promotion à Polytechnique de Léonce de Carville, et qu'il a été le tuteur du mémoire de fin d'études d'Alexandre de Carville aux mines Paris-Tech. Le juge regarda le commissaire Vatelier comme s'il venait de proférer une hérésie. Il agita ses bras et tira sur l'écharpe jaune moutarde, d'un geste trop nerveux pour espérer rééquilibrer le morceau de tissu.
« Si je dois même réfuter les experts qui dirigent un labo à Polytechnique ?»
Vatelier répondit par un sourire. « Oh, moi, je ne remets rien en cause, hein. Je n'ai aucune compétence pour cela. Je peux juste vous dire que la théorie Le Talendier à Polytechnique fait beaucoup rire ses collègues que j'ai rencontrés. » Le juge soupira. Dehors, la tour Eiffel avait entièrement disparu dans le brouillard, et des centaines de touristes avaient sans doute attendu des heures sous la pluie pour rien. Je pourrais encore vous inonder pendant des pages de détails techniques. Des enregistrements d'heures de réunion, je ne vais pas vous fatiguer avec ça. Pas tout de suite, du moins. Les semaines passèrent, et l'affaire piétinait dans un marasme judiciaire et scientifique qui progressivement n'intéressait plus personne en dehors des familles concernées. Et les flics insistaient. Les journalistes, eux, s'emmerdaient. Le public, qui s'était passionné pour l'affaire dans les jours qui avaient suivi le miracle, se lassa rapidement, faute de certitude. Les querelles d'experts ennuyaient tout le monde, l'énigme semblait insoluble. Aussitôt l'agitation retombée, les flics tentèrent de travailler le plus discrètement possible. De leur côté, les avocats de Carville pesèrent de tout leur poids pour éviter que l'instruction ne s'étale trop sur la place publique. Si cette affaire n'était gérée qu'entre hauts fonctionnaires, il ne faisait aucun doute qu'elle tournerait en leur faveur. Le juge Le Drian était un homme raisonnable. L'Est républicain, à l'origine de tout, fut le dernier journal à tenir une chronique quotidienne des avancées de l'affaire de la miraculée du Mont-Terrible. Une chronique de plus en plus brève. La journaliste chargée de couvrir l'enquête, Lucille Moreau, qui suivait déjà depuis des décennies les affaires les plus sordides dans l'Est de la France, et elle n'en manquait pas, se trouva rapidement face à un dilemme. Comment baptiser la miraculée ? Impossible, en restant neutre, de la prénommer Émilie ou Lise Rose. Les périphrases telles que « La miraculée du Mont-Terrible »,« L'orpheline des neiges »,« Le bébé sauvé du brasier » alourdissaient sacrément son style, qu'elle voulait pourtant simple et direct pour captiver son lectorat populaire. Elle trouva l'inspiration vers la fin janvier 1981. À cette époque, vous vous en souvenez sûrement, une chanson de Charles-Élie Couture passait en boucle sur les radios. Une chanson sinistrement de circonstances, comme un avion sans ailes. Excédée par la lenteur de la procédure et la frilosité du juge Le Drian, Lucille Moreau fit afficher le 29 janvier, à la une de l'Est républicain, une photographie en pleine page de la miraculée dans sa cage de verre au service pédiatrie de l'hôpital, où elle patientait depuis plus d'un mois dans l'indifférence générale et sous-titra en gras trois lignes de la chanson. Ô libellule, toi, t'as les ailes fragiles. Moi, j'ai la carlingue froissée. »
L'expérimenté journaliste fit mouche. Plus personne ne put entendre le tube de Charlie Lécouture sans penser à la petite miraculée, à ses ailes fragiles, à la carlingue froissée. Pour la France, l'orpheline des neiges devenait libellule. Le surnom demeura. Même ses proches l'adoptèrent, même moi. Quel con, libellule. J'ai même poussé le zèle jusqu'à m'intéresser à ces insectes difformes, à dépenser des fortunes pour les collectionner. Quand j'y repense maintenant, tout ce cirque à cause d'une journaliste maligne qui a su surfer sur le sentimentalisme populaire. Les flics, eux, étaient moins romantiques. Pour évoquer le bébé, lorsqu'ils ne voulaient pas parler explicitement de l'une des deux familles, ils inventèrent un acronyme neutre qui associait le début du premier prénom à la fin du second. Le croisement de Lise Rose et d'Émilie devint Lily. Lily. Ce fut le commissaire Vatelier qui l'employa le premier devant les journalistes. Pas mal trouvé, indéniablement. Si, finalement, les flics pouvaient se montrer romantiques. Tout comme libellule, le prénom Lily demeura. Un peu comme un diminutif affectueux. Ni Lise Rose, ni Émilie. Lily, une chimère, un être étrange composé de deux corps. Un monstre.
À propos de monstres, c'est le moment. Il faut que je vous parle du rôle joué par Malvina de Carville. Je sais, Malvina de Carville n'aurait pas aimé la transition. Vous me la pardonnerez. Vous allez comprendre, cela fait partie des dommages collatéraux du drame, si l'on veut. Léonce de Carville était un homme volontaire, déterminé, habitué à obtenir ce qu'il voulait. Pourtant, aucune des preuves, aucune des pièces du dossier ne penchait franchement en sa faveur. Il commit alors deux erreurs, deux très lourdes erreurs, en voulant aller trop vite. La première concernait sa propre petite fille, Malvina. Elle n'avait que 6 ans, c'était une enfant en pleine de vie, élevée comme une reine dans un cocon privilégié. Bien entendu, le décès accidentel de ses parents, de sa petite sœur peut-être, allait être difficile à surmonter pour elle. Mais bien entourée d'une armée de psys, de sa famille, elle s'en serait remise, elle se serait reconstruite, comme tout le monde. Sauf qu'elle était le seul témoin oculaire, le seul être encore vivant à avoir côtoyé Lise Rose en Turquie, pendant les 2 premiers mois de sa vie, peut-être les 2 seuls. Une enfant de 6 ans est-elle capable de reconnaître un nourrisson, de le reconnaître avec certitude, de le différencier d'un autre ? La question mérite d'être posée. Face aux affirmations des grands-parents Vitral, Malvina était l'unique atout côté Carville, la seule capable d'identifier Lise Rose. Léonce de Carville aurait dû la protéger, ne pas la faire témoigner, foutre les flics dehors, il en avait les moyens. Ne rien lui demander, la laisser tranquille, la mettre au vert, l'envoyer loin de la tourmente, dans une pension pour gosses de riches, avec des puéricultrices attentionnées. D'autres enfants joyeux, un grand parc avec toutes sortes d'animaux. Au lieu de cela, il exposa Malvina. Il la fit témoigner, 10 fois, 100 fois, devant des dizaines de juges, d'avocats, de flics, d'experts. Pendant des semaines, elle passa de cabinet en auditoire, de salle d'attente en salle d'audience, encadrée en permanence par des types sinistres en costume cravate, et des gorilles pour la protéger des journalistes tout de même. Malvina, systématiquement, devant toutes les grandes personnes qu'on lui présentait, répétait la même chose.
« Oui, ce bébé est ma petite sœur. Je la reconnais, c'est bien Lise Rose. »
Son grand-père n'avait même plus besoin de la forcer. Elle en était certaine. Elle n'avait plus de doute. Elle ne pouvait pas se tromper. C'était ses habits qu'on lui montrait, son visage qu'elle reconnaissait, ses pleurs qu'elle entendait. Elle était prête à le jurer, devant le juge, sur la Bible, sur sa poupée. Du haut de ses 6 ans, elle pouvait même tenir tête aux grands-parents Vitral.
Depuis, j'ai vu grandir Malvina. Enfin, grandir est un bien grand mot. Disons que j'ai vu vieillir Malvina, jusqu'à devenir adolescente, adulte. J'ai vu progressivement s'immiscer en elle la folie, une folie furieuse. Elle me colle la frousse, c'est vrai. Je pense que sa juste place serait dans un hôpital psychiatrique, surveillé de très près. Mais je suis bien obligé de reconnaître une chose. Elle n'est pour rien dans ce qui lui est arrivé. Son grand-père, Léonce de Carville, est le seul responsable. Il savait ce qu'il faisait. Il a délibérément instrumentalisé sa petite-fille. Il a consciemment sacrifié sa santé mentale au mépris de tous les conseils des médecins, des supplications de sa propre femme. Le pire est que cela ne lui a servi à rien, strictement à rien. Car Léonce de Carville commit une autre erreur, peut-être encore plus grossière que la première. »